Donc, on en alphabétique, cher Florian.
Je tiens à préciser que je suis une femme. Non, je plaisante. Il faudrait ajouter homme prêtre et homme imam sur vos petites fêtes. Non, ça va.
Pourquoi pas.
Ça vous embête? Je vais me lever comme ça.
Bien sûr.
Je vous vois mieux et puis je suis là. On va voir.
Je sais qu'ils sont pointés par les lumières tout à l'heure, mais puis je ne suis pas chez moi. Alors, je vais voir.
Non, mais on vient de parler du don de la Torah. Hein. C'était la fête de Shavuot il y a quelques jours. On dit que les enfants d'Israël, ils voyaient les voix. C'est une expression un peu bizarre qu'il y a dans la Bible au moment de l'Exode. Donc, même s'il n'y a pas de lumière, et de toute façon, on a à côté de nous Sarik Abounour, et ça veut dire fils de la lumière.
Tout à fait.
Tu vois ? Donc, ça y est, une parenté. C'est nerf ou or également. On est bon.
Et Vincent Leclerc,
qui est clair aussi. Donc on est plein de lumière aujourd'hui.
Tu vois,
dans la lumière.
Le
symbole est.
C'est peut-être Chaim, tu vois, Chaimski. Donc moi, ma lumière n'est que spirituelle. Je suis désolée. Pardon.
C'est plus ça.
C'est eux, je sais. C'est. Je vais commencer par faire 7 petits points rapides. Sept petits points rapides sur ce qu'il faut savoir pour comprendre le judaïsme, un petit peu comme vous l'avez fait tout à l'heure. La première chose qui est très importante, c'est de connaître deux mots qui sont Torah écrite, Torah orale. Torah, ça veut dire un enseignement. Parfois, c'est traduit par loi, mais c'est une erreur. C'est un enseignement, Torah. Il y a la Torah écrite, la Torah orale. La Torah écrite, c'est donc, ça reprend, on peut dire, le Pentateuque, et puis bon, les autres parties de la Bible qui ont une importance moins directe en termes juridiques. Et la Torah orale, elle est réputée avoir été donnée en même temps que la Torah écrite sur le mont Sinaï. Elle joue un rôle de réadéquation, de besoin sans cesse de remettre les choses à jour, de transmission. L'écrit, et ça rejoint aussi ce que vous disiez, l'écrit est figé, mais la parole se transmet également nécessairement dans un rapport anti-machine, dans un rapport individuel qui permet de continuer à progresser et qui oblige à le faire. Et quand on parle de rapport direct ou indirect au texte, justement, dans la tradition juive, en principe, il est interdit d'étudier sans un maître, justement dans cette même perspective, parce que cela risque d'amener à des contresens, encore une fois, parce que les textes de la Torah écrite sont parfois très problématiques. Et donc, si on les applique de façon directe, on arrive à des contresens absolus. Le plus célèbre, c'est œil pour œil, dent pour dent, qui, lu à la lumière de l'enseignement oral, de la Torah orale, signifie pour un œil, tu remplaces par un autre œil. Donc, si jamais tu commets un dommage physique à une personne, tu dois le remplacer de tous les moyens possibles. Bien sûr, on arrivera peut-être un jour à fabriquer des yeux synthétisé. Mais en tout cas, ça remonte à l'époque de la Mishnah, donc avant le deuxième siècle de l'ère chrétienne. Et donc, il faut compenser l'humiliation, la perte de capacité de travail, l'immobilisation, les médicaments, etc. Donc ça, c'est un petit point entre Torah écrite, Torah orale, réputée avoir été donnée traditionnellement ensemble, mais néanmoins, il y a une transition historique qu'il est important de marquer, c'est à peu près vers moins 500, où Ezra Hasopher, Ezra le scribe, commence à nous faire transiter, pour notre part, de la période prophétique à la période des sages. Donc, ce qui devient source de légitimité, c'est une des deux choses fondamentales encore dans le judaïsme aujourd'hui, c'est l'étude de la Torah. Donc, pour nous, à partir de moins 500, il n'y a plus de prophétie. Et donc, c'est l'étude de la Torah qui est importante. Les deux choses donc centrales dans le judaïsme, c'est étudier d'une part et respecter les commandements d'autre part. Et donc, ce qui est absent de ce binôme, évidemment, c'est quelque chose qui est très important, je pense, dans d'autres modèles religieux ou monothéistes tels qu'on les perçoit aujourd'hui, c'est la croyance. Elle n'a pas du tout le même statut dans le judaïsme que dans d'autres traditions religieuses, mais on y reviendra. Mais donc, une conséquence de ce développement, de cette importance de l'enseignement oral, c'est qu'il y a une diversité d'interprétations, et là aussi, nous sommes cousins et apparentés, parce que forcément, quand on commence à parler, on réfléchit. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses très obscures dans la Torah écrite. On dit « respecte le jour du Shabbat ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de respecter le jour du Shabbat? Personne ne le sait, ce n'est pas détaillé. Donc, il va falloir réfléchir de quelle façon on veut rendre un jour différent des autres jours. Et donc, il y a des discussions permanente, c'est l'essence du judaïsme. Et quand l'enseignement oral a dû malheureusement être partiellement écrit, c'est une longue histoire et c'est pas le sujet maintenant, eh bien, ça s'appelle la Mishnah, tel que ça a été photographié. Alors on pourrait dire l'enseignement oral c'est comme une danse et puis on a quelques photographies à certains moments. Donc évidemment, une photographie ça t'explique pas ce que c'est la danse, tu peux pas juste la lire et la voir et reconstituer la chorégraphie. Mais donc, dans la Mishnah, il y a déjà des opinions différentes. Et ensuite, l'étape suivante, ça a été la Guémara, la création du Talmud, qui s'est, celui, simplifions, donc le Talmud de Babylone, qui s'est figé au 5e siècle, mais qui reprend encore des diversités d'opinions, elles-mêmes reposant sur des diversités d'opinions préalables. D'accord. Donc, si vous entendez quelqu'un dire, y compris moi, ça peut m'arriver, mais bon, si vous m'entendez dire « le judaïsme dit que… » Non. C'est forcément plus complexe que ça. Donc ça, c'est la conséquence en termes de pluralisme au sein du judaïsme. Si vous avez envie de noter un mot qui illustre ça, sans doute, c'est le mot de marloket. Marloket, c'est le fait d'être partagé, de ne pas être d'accord. C'est normal de ne pas être d'accord. La dernière marloket aujourd'hui, ou en tout cas celle qui est la plus célèbre de nos jours, c'est celle qui naît au milieu du 19e siècle et qui aboutit à la création de différents mouvements, schématiquement trois, disons, en Europe centrale. Donc dans le monde séfarade, c'est pas du tout, c'est beaucoup plus récent, c'est un phénomène d'importation. Et donc il y a une réalité sociale qui est le développement des Lumières en Occident, qui fait que pour les Juifs qui vivent en Europe centrale, les réactions sont diverses, et donc il y a la création à ce moment-là des libéraux, des orthodoxes et des massortis. Donc ça, c'est la dernière marloquette en date qui a encore des conséquences aujourd'hui, puisque globalement, mais c'est pas vrai, il y a une femme rabbin orthodoxe française qui est en formation maintenant. Donc, j'allais vous dire, typiquement, la place des femmes dans le judaïsme dépend de ça, mais ça dépend aussi de beaucoup d'autres facteurs. Restons à l'époque de l'émancipation. À cette époque, le plus grand mouvement dans le judaïsme, c'est l'assimilation, parce qu'être un juif en Allemagne au milieu du 19e siècle, c'est extrêmement difficile. Il y a des quotas, tu ne peux pas rentrer à l'université, c'est vraiment... Et donc, la société juive est devenue société ouverte, et pas qui a très envie de s'intégrer, mais qui n'en a pas vraiment les moyens. Donc le plus grand mouvement à cette époque, c'est l'assimilation, c'est-à-dire que les juifs essayent d'oublier qu'ils sont juifs. Par réaction et pour que le judaïsme continue à exister, le mouvement libéral se crée en rendant la synagogue acceptable pour des protestants, c'est principalement en Allemagne, même si c'est également France et autour. Donc rendre le judaïsme acceptable et qu'on ait l'air normaux. Oui, je sais, c'est quasiment impossible, mais voilà, ils ont tenté. Et donc ça, c'est les mouvements libéraux, et par réaction encore, il y a l'orthodoxie qui s'est créée en considérant qu'il fallait figer le judaïsme parce que le risque de disparaître était trop grand. Donc, on risque trop de disparaître, ayons l'air normaux, on risque trop de disparaître, ne faisons plus attention au regard qu'on porte sur nous, et ça, c'était... En 1850 environ, donc il y a quand même un certain nombre d'années. Voilà. Mais donc ça a continué à porter des conséquences qui se sont amoindries aujourd'hui. Et si on voulait aujourd'hui considérer le mouvement libéral qui en gros met en avant la liberté individuelle de chacun, c'est pas contradictoire ce que je vais dire, mais donc le mouvement libéral est comme un éventail ou un arc-en-ciel, disons. Et si on voulait mettre à côté le mouvement conservatif, on pourrait considérer, même si c'est trop schématique, mais que eux considèrent que la loi juive garde quelque chose d'obligatoire à un certain niveau dans le respect de son évolution. intrinsèque, historique, permanente, jusqu'à ce qu'on l'affiche en 1850, jusqu'à ce que les orthodoxes, certains orthodoxes l'affichent en 1850. Donc vous voyez, ça se recoupe, et on pourrait mettre à côté, éventuellement, les orthodoxes, dont on dirait qu'eux, ils ont plus de difficultés globalement avec l'évolution de la... avec le fait de reconnaître l'évolution historique du judaïsme, ce qui est assez étrange, en fait, d'une certaine façon, puisque toute l'histoire du judaïsme traditionnel s'est dévoluée. Donc il y a des rabbins qui citent d'autres rabbins et qui les contredisent, et ça au tout début de la chrétienne, et aussi 500 ans après, et aussi 1000 ans après, et aussi 1500 ans après, etc. Mais donc, voilà, pour vous dire que il ne faut pas rentrer dans ces schémas, mais néanmoins, ils veulent dire quelque chose, et ils représentent, vous imaginez bien, globalement, sur à peu près tous les problèmes de société, les libéraux sont les plus... ouverts à l'éthique moderne, disons, si on veut le dire comme ça, et puis petit à petit, les plus à droite des orthodoxes, ils sont le plus fermés. Vous voyez bien les limites quand même. Donc c'est important, parce que moi je suis rabbin, donc j'ai été ordonnée par le mouvement conservatif, je suis dans une synagogue libérale, il y a des femmes rabbins orthodoxes françaises qui sont en train d'apparaître également, donc tout ce paysage est en évolution. Alors, premièrement, Torah écrite, Torah orale. Deuxièmement, le pluralisme dans le judaïsme. Troisièmement, autre conséquence de cette histoire de Torah écrite, Torah orale, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas... Alors, continuer à faire semblant qu'il y a une antériorité du judaïsme, parce que vu le pourcentage infime de la population que nous représentons, si on se rapporte à ça, je ne serai plus jamais invitée, mais en réalité, il n'y a pas d'antériorité du judaïsme. Il y a une antériorité du judaïsme d'avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Le judaïsme d'il y a 500 ans, ou le judaïsme de l'époque de la Mishnah, juste après la destruction du Second Temple, il est antérieur au christianisme, et il est antérieur à l'islam. Ça, c'est sûr. Il est aussi antérieur au judaïsme actuel. Vous voyez ce que je veux dire? Nous n'avons pas été congelés à cette époque, et donc le judaïsme d'aujourd'hui, il est contemporain de l'islam et du christianisme d'aujourd'hui, forcément. Voilà, donc ça c'était mon troisième point. Quatrième point, alors tout ça, vous imaginez bien, on peut développer beaucoup, et voilà.
Mais tu as presque 20 minutes.
Pardon ?
Tu as presque 20 minutes.
Ah, super, très bien, merci. Continue, parce que je regarde l'horloge, et puis immédiatement j'oublie, parce que je suis complètement dans mon... Alors, le quatrième point, qu'il faut dire quand même, qui est un sujet important, c'est la question de peuple élu, pas peuple élu, est-ce qu'on est le vrai peuple élu, ou est-ce que les autres sont plus élus que nous? D'accord, c'est un grand sujet. Alors, il y a une différence entre élection et exclusivité. Il faudrait déjà voir ce que voudrait dire l'élection. Et ce qu'on dit davantage, c'est qu'on est électeur, c'est qu'on a choisi une certaine façon et un certain rapport à Dieu. Pour preuve, si quelqu'un veut rentrer dans le judaïsme, il peut le faire. Mais ce n'est pas conseillé. c'est pas conseillé pour plein de raisons, mais la raison la plus fondamentale pour laquelle ce n'est pas conseillé, c'est que c'est pas mieux d'être juif que d'être autre chose. Donc, on peut considérer que... Alors, voilà, ça, c'était mon enseignement, c'était le don de la Torah, donc c'était la fête du don de la Torah il y a 2 jours, donc c'est exactement le sujet. Et donc, on considère qu'il y aurait sans doute une Torah universelle, un enseignement, si c'est universel, c'est pas la peine de dire en hébreu, un enseignement universel peut être une inspiration qui est partagée par tous, mais... la façon dont nous l'avons reçu et fait évoluer, laissé évoluer en dialogue avec l'histoire jusqu'à aujourd'hui nous est évidemment spécifique. Il faut bien comprendre que suite à la Shoah, Yom HaShoah, le jour de commémoration du génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale, est essentiel dans l'identité, dans l'histoire du judaïsme actuel. Ça aurait pu ne pas se produire et ça n'en aurait pas fait partie. Et donc ça n'a pas de valeur absolu, et ça n'a pas été révélé par Dieu au Sinaï en moins 2000. Donc il y aurait un enseignement universel d'un côté et une façon spécifique de le traduire. Donc, par rapport à élu, peuple élu ou pas, c'est quelque chose qui est une discussion qui est globalement dépassée. Et pas totalement, on peut entendre parfois des choses différentes au sein de la réalité juive d'aujourd'hui, mais c'est loin d'être majoritaire. Et voilà. Et c'est un peu désolant parfois de l'entendre, mais en tout cas, ce n'est pas majoritaire dans le monde, ni dans la société juive, ni dans la sociologie juive actuelle dans le monde, ni dans la sociologie juive en France, ni dans l'histoire des sources juives. Donc le cinquième point, c'était il y a deux choses importantes dans le judaïsme. L'étude, étudier la Torah, étudier les enseignements, essayer de rajouter un petit peu sa pierre dans cet édifice, et respecter les commandements. Donc les commandements, c'est donc il y a écrit dans la Torah qu'il faut respecter le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, se reposer? C'est quoi un jour en dehors des autres? Ah tiens, on va dire qu'il faut allumer des bougies au début et refaire un truc avec des bougies après. Voilà. Réfléchir et mettre en place un mode de vie auquel on se tient. Le sixième point qui est important également pour la suite, c'est le rapport à la fois au plaisir et à la responsabilité dans le judaïsme. Donc dans les sources juives, dans différents passages du Talmud, on dit qu'il est interdit de passer à côté d'un plaisir de ce monde et de ne pas en profiter. Donc s'il y a un plaisir qui se présente à toi, il faut en profiter. C'est une bonne nouvelle, je sais. Alors, la phrase suivante, c'est la phrase juste qui suit, juste connexe, c'est de dire « Celui qui profite d'un plaisir dans ce monde sans prononcer de bénédiction, c'est comme s'il commettait un vol vis-à-vis de la présence divine et du collectif d'Israël. » Chacun de ces mots ne veut pas dire grand-chose quand on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, bien sûr. Mais en tout cas, ce qu'on peut tirer de ça, c'est que le plaisir, il ne s'agit pas de l'absorber de façon intensive et unilatérale, mais d'en prendre conscience, d'en profiter, de voir à quoi on l'affecte et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc forcément, vous voyez bien, par rapport à toutes les autres questions, c'est un point important. Et le dernier point par rapport à la tradition juive, peut-être ce qui est spécifique par rapport à d'autres traditions, c'est qu'on espère l'arrivée, on espère et on considère qu'on doit contribuer à l'arrivée d'une ère de fraternité dans le monde où personne, alors il peut y avoir encore des différences sociales, hein, mais personne meurt de faim, tout le monde est libre, il n'y a pas d'esclaves, etc. Et donc on espère que cette ère va arriver et on considère qu'elle n'est pas encore arrivée. Et nous on appelle ça l'ère messianique. Donc est-ce qu'il y aura un monsieur sur son cheval blanc ou sur son âne blanc qui arrivera? Oh, tous les rabbins sont d'accord que ça, c'est plutôt symbolique depuis au moins 1500 ans, donc ça on s'y attend pas forcément. Mais par contre, cette ère de fraternité, on est censé y travailler et pas la lâcher. Bien que malgré les difficultés de l'histoire, on aurait pu lâcher prise, mais c'est le moment pour moi de parler du point du... J'ai dit 7, mais vous savez, 7, c'est le principe du temps dans le judaïsme. 8, c'est le principe de la spiritualité, de ce qui est en plus du temps. Et ça, dans le judaïsme, c'est l'humour. Donc, sur le fait qu'on ne peut pas lâcher hein, cette période, ce rêve, cet espoir, ni cesser d'y travailler. Alors, la blague appropriée, c'est quoi la différence entre une mère juive et un bulldog? Entre une mère juive et un bulldog, c'est quoi la différence? Le bulldog, il y a une chance qu'il lâche un jour. Tu vas dire, l'ère messianique, non mais on pourrait dire, non mais il vous a eu quelques petits aléas dans l'histoire, non mais ça c'est pas grave. Voilà. Et par rapport à la croyance, je vous ai dit qu'on y reviendrait, c'est par là que je vais conclure les petits points d'introduction. Donc c'est dans un contexte interreligieux, il y a un petit enfant juif qui revient, il est à l'école catholique. Et Et il rentre à la maison et il dit à ses parents, ah papa, maman, j'ai appris un truc super aujourd'hui. Il y a trois, Dieu, c'est la Trinité, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors les parents, bon, c'était pas exactement ça leur objectif. Ils se tournent vers leur enfant et ils lui disent, alors écoute, il faut que ce soit bien clair pour toi. Chez nous, il y a un seul Dieu et on n'y croit pas. D'accord. Bon, voilà, ça vous présente un petit peu le. Merci.
Merci.
Ah non, j'ai pas fini. Non, ça c'est la traduction, ça. Non, pas de problème. Alors, bon, ça c'est la partie facile. Maintenant, je veux me tenir à ce qui était demandé, donc le cadre des relations interpersonnelles, maritales, etc., les évolutions actuelles et les défis. Donc, dans la relation à l'autre, évidemment, la relation homme-femme est essentielle, etc., Genèse. Alors, le premier chapitre, il ne faut pas l'oublier, hein. À son image, il le créa, homme et femme, il les créa. Donc, dans le premier chapitre de la Genèse, relisez-le, il y a une égalité totale entre l'homme et la femme, c'est important de le savoir. Ce n'est que dans le deuxième chapitre que Ève est prise de la côte du côté d'Adam, etc. Il y a un livre qui s'appelle « Grandes figures de la Bible » et j'ai choisi exprès de prendre le chapitre. C'est une collaboration avec plein d'auteurs. J'ai fait exprès de choisir Adam et Ève pour pouvoir souligner ce point qui est important. Donc, l'homme et la femme, l'idée, c'est le compagnonnage. On apprend des choses à deux qu'on n'apprend pas seul. C'est à travers le quotidien qu'on est obligé de réévaluer au maximum qui on est. Bien sûr, dans la Bible, c'est écrit « Ezer Kenegdo hein, », une aide contre lui. Parce que la Bible, elle est du point de vue de l'homme. D'accord ? Donc, mais ça veut dire avec lui s'il se conduit bien ou contre lui s'il se conduit pas bien. Donc il y a l'espoir que, mais ça reste quand même une rédaction qui vient d'un point de vue masculin. On pourrait être inversé aujourd'hui et dire une aide contre elle, que l'homme est une aide contre elle. Donc voilà, donc il y a le compagnonnage, il y a la sexualité, donc de l'ordre du plaisir et de la responsabilité, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a bien sûr la procréation. Faire des enfants, c'est important, c'est une des plus grandes choses de la vie. C'est écrit, ça commence dans la Genèse, fructifier et multiplier. Et ça continue avec l'idée que pour avoir assuré son devoir de reproduction, il faut avoir au moins un garçon et une fille qui eux-mêmes te donneront un petit enfant garçon et un petit enfant fille. Voilà. Et là, comme ça, tu es. Donc, il y a ça aussi qui est important, mais ça ne conditionne pas l'ensemble des relations entre l'homme et la femme. Dans le cadre. Alors, par exemple, le Cantique des Cantiques, ça vous dit. Vous voyez le Cantique des Cantiques ? Donc, c'est dans la Bible. Donc, voilà, ça dit quelque chose d'un certain type de relation au droit à l'homme et la femme d'être ensemble, ensuite de façon totalement libre. Ensuite, quand on parle d'institutionnalisation et de cadre juridique, le mariage juif, effectivement, n'est pas un sacrement, mais est un contrat. L'acte de mariage est remis de l'homme à la femme parce que c'est elle qu'il faut protéger, c'est considéré comme ça. Et ça a été vrai énormément dans les civilisations antiques. Et cet acte qui est remis à la femme s'appelle la ketouba. Ça veut dire la chose qui est écrite. Mais, c'est les mêmes racines. Mais plus précisément, en réalité, ça concerne le montant que l'homme doit verser à la femme s'il la quitte. Donc il s'agit d'une prise de responsabilité dans une société extrêmement patriarcale où si un homme quitte une femme, qu'est-ce qu'il lui reste pour vivre ? Donc c'est hors de question, donc il faut donner une ketouba. Donc ça éclaire la légitimité du divorce dans le judaïsme. Le mariage lui-même est l'expression du fait que tu ne peux pas te défaire du lien sans protéger ton partenaire. Donc ça, c'est la question de la Ketouba. Et puis, je passe rapidement, directement, puisqu'on en parle, à, au contraire de ça. Donc, l'idée de base, c'est de protéger la femme. Aujourd'hui, vous avez entendu sans doute des questions autour du refus de certains maris d'accorder le divorce à leur femme et une certaine interprétation extrêmement restrictive de la législation par certains orthodoxes extrémistes leur donne ce pouvoir. Donc, je vous donne un exemple. Évidemment, hein, le mari et la femme aussi d'ailleurs doivent divorcer de plein consentement. Mais donc aujourd'hui, ils interprètent ce plein consentement du mari de façon extrêmement extensive, en considérant que si le mari dit « oui, je veux bien divorcer, mais je voudrais récupérer l'appartement que ses parents lui ont payé au moment de notre mariage, ou toute autre condition », eh bien, certains rabbins, en particulier en Israël, où ça a un impact sérieux en termes de droits personnels pour les femmes, il y aura tendance à considérer que, ben non, il est d'accord en fait, t'as qu'à lui donner l'appartement. Il n'a pas dit non, il a dit non. Il a juste dit qu'il veut l'appartement que tes parents t'ont donné. Donc il n'est pas contre, donc on ne peut pas le forcer. Donc vous voyez ici comment quelque chose qui initialement est légitimement destiné à protéger la position des femmes dans le monde antique devient exactement le contraire, ce qui n'est pas légitime. Hein. Il y a plein d'outils juridiques pour faire le contraire. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est absolument pas légitime comme dérive. Donc, le divorce... Donc le mariage, le divorce, donc, qui est complètement légitime, qui est bien triste. Hein. Quand un couple se sépare, Dieu lui-même pleure. Enfin, il y a plein de choses comme ça, mais c'est totalement légitime parce que on ne peut pas conserver une union qui ne fonctionne pas, donc ça semble évident. Et alors, c'est intéressant de rappeler qu'initialement, il y avait trois façons, maintenant il faut cumuler ces trois façons, mais une des trois façons suivantes constituait le mariage. Donc le fait de donner un acte et un engagement écrit, la ketouba dont on a parlé, mais également le fait de faire un cadeau en disant « je te le donne en vertu du fait que je souhaite qu'on se marie », ou également une relation sexuelle valait mariage. Donc ça veut dire, c'est quelque chose d'intéressant quand même pendant jusqu'à, il n'y a pas longtemps, jusqu'à la génération précédente, la contraception n'existait pas, donc la relation sexuelle entraîne la possibilité que plein de choses se passent, d'être enceinte, d'avoir des enfants, etc. Donc, on ne pouvait pas dire « oui, mais je ne t'ai pas épousée », ça devait constituer également le mariage. Donc, j'ai parlé du cadre habituel de mariage, de divorce. Je vais passer aux évolutions internes, même si je n'ai pas forcément donné tous les éléments dans le cadre habituel, mais c'est l'essentiel de ce point de vue-là. Donc, dans les évolutions actuelles, quelque chose de fondamental, c'est l'institutionnalisation d'un judaïsme qui a le pouvoir d'être coercitif à travers l'établissement d'un grand rabbinat en Israël. Donc à partir du moment où tu as une administration, il y a une hiérarchie, il y a des règles, ils décident en fonction du public qu'ils reconnaissent comme légitime. Forcément, hein, tout juge s'adapte la normalité au public qu'il connaît, et c'est un public très particulier. Et donc ça pose des difficultés. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas. Par exemple, par rapport à cette question de divorce et de femmes qui sont laissées sans acte de divorce. Alors ça a un grand impact parce que effectivement, comme en islam, la filiation est très importante. Donc tu veux plus continuer ton couple, tu arrêtes. Mais tu peux pas avoir de relations extra-conjugales. C'est impossible. Donc le problème, c'est que si on ne te laisse pas divorcer, chaque relation que tu auras après est considérée comme extra-conjugale. Donc c'est possible de tenir comme ça certaines femmes complètement enfermées dans un mariage qui n'a plus de sens. Dans les évolutions actuelles, alors évidemment, ça me gêne un petit peu parce que je ne vois pas tout le monde. On peut le mettre... Alors il y a la question du féminisme. de l'apparition d'une conscience féministe dans la société occidentale, qui est très intéressante parce que, à la base, hein, le judaïsme était assez féministe. C'est-à-dire que, donc j'ai dit, hein, l'étude et les commandements, c'est les deux choses importantes. Il n'y avait pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes sur l'établissement de ces deux questions. Et puis ensuite, avec l'époque de la Mishnah, l'influence grecque, on a commencé à dire que peut-être les femmes étaient dispensées de certains commandements. Et au fil de l'histoire, on dit, oui, mais si elles sont dispensées, vu qu'elles ont beaucoup de travail quand même avec les enfants, c'est mieux qu'elles ne le fassent pas. Et jusqu'au moment où on a dit, oui, mais si elles le font quand même, alors c'est qu'elles sont prétentieuses. D'accord ? Et donc on a toute une évolution comme ça, mais clairement, au niveau de la période talmudique, on dit une femme, alors, lit dans la Torah au même titre qu'un homme, mais on n'appellera pas une femme à lire dans la Torah par respect pour la communauté. C'est quoi ce respect de la communauté ? D'où ça sort ? Apparemment, clairement, c'est le fait que si tu vis dans une société qui fait aucune place de leadership aux femmes, un peuple ultra minoritaire qui irait dans le sens contraire a des difficultés. Donc dans la société grecque où il y a quasiment, bon, pas tout à fait, mais droit de vie ou de mort sur les femmes, etc., c'est pas possible qu'une femme lise dans la Torah pour la communauté. Et donc cette évolution a progressé. Et donc le féminisme actuel fait que là où en dialogue avec les sociétés extérieures il était difficile de tenir une position d'égalité, il redevient non seulement possible, mais évident. Et maintenant, aujourd'hui, l'honneur d'une communauté, bien sûr, l'honneur d'une synagogue, c'est de laisser et d'encourager les femmes à lire dans la Torah. C'est évident. Sauf pour ceux pour qui ce n'est pas évident. Mais donc, il y a ce tournant-là à prendre. Donc, ça, c'est une des grandes révolutions actuelles. C'est que le sens du féminisme a été inversé. Très rapidement, dans les questions de jeu de pouvoir entre, à partir du moment où il y a une administration au sein du judaïsme, à travers le grand rabbinat en Israël et aussi le consistoire en France, il y a une certaine, le jeu de l'évolution de la loi risque d'être faussé. Et très rapidement, je dirais donc juste, ce sera possible de répondre à des questions par rapport à l'homosexualité, au développement aussi à travers Internet de recettes de cuisine ou d'arguments d'autorité qui ne respectent plus l'importance de du dialogue au sein de l'étude. Et pour moi, les défis d'aujourd'hui, c'est forcément l'éducation, parce que plus on sait, plus on connaît sa propre tradition, plus on peut être modéré. Puis on peut comprendre et faire la part des choses, on sait qui on est. Donc on n'est pas obligé de le montrer par plein de choses artificielles. Le deuxième défi, c'est la virtualisation du corps. De plus en plus, le corps devient quelque chose d'abstrait pour tout un tas de raisons. Et peut-être aussi, le dernier, c'est un risque quand même d'éclatement du judaïsme à travers certaines questions. Et un exemple, c'est par exemple l'homosexualité. Il y a vraiment une partie de la communauté juive aujourd'hui qui considère que c'est difficile quand même de parler des homosexuels et que c'est leur vie privée, qu'il ne faudrait pas trop... Moins ils en parlent, mieux c'est, bah, qui garde ça pour eux. Et une autre qui dit ne pas prendre position, c'est criminel, parce qu'il y a des homosexuels qui se font maltraiter, même en France, et qui se font, enfin dans la rue, et qui se font assassiner dans certains pays. Donc on doit prendre une position extrêmement claire, extrêmement égalitaire, et c'est notre responsabilité. Et c'est ce que je veux dire en termes de polarisation. Donc c'est ce que j'ai pu dire en une grande vingtaine de minutes autour du judaïsme et des défis actuels. Merci.
Merci.